13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bienvenue dans les tables de Manu, l'émission dans laquelle les invités passent à table, ou plutôt repassent à table, puisque tout au long de l'été, je les emmène dîner au restaurant. Et chaque samedi, entre 12h et 13h, ils reviendront ici même vous dire tout le bien, ou pas, qu'ils auront pensé de ces restaurants. Mais ce sera également l'occasion de vous parler de l'actualité de ces mêmes invités, un nouveau livre, un album qui vient de sortir, un film au cinéma, si ce sont des auteurs ou des artistes, ou bien de vous parler de leur métier, quand ils pratiquent une activité professionnelle pas trop courante ou originale. C'est d'ailleurs le cas de mon invité du jour, Cyril Graffin. Bonjour Cyril.
Bonjour Manuel.
Alors vous, ça n'est pas d'un métier dont vous allez nous parler, mais de trois métiers. Vous êtes assistant réalisateur à la télévision, créateur de concepts d'émissions de télévision, mais aussi bouquiniste sur les quais de Seine. Alors vous ne devez pas trop vous ennuyer, vos semaines ont combien de jours, Cyril?
Environ 50.
Environ. 50, c'est ça. Alors du coup, comme vous aviez plein de choses à me raconter, ce n'est pas un restaurant qu'on a testé ensemble, mais trois. Alors j'espère que je ne vous ai pas fait prendre trop de kilos. Bien, et puis vous nous parlerez aussi de ces métiers plutôt originaux tout au long de l'émission, mais aussi et surtout des tables que nous sommes allés tester ensemble, à commencer par Mabrouk. Alors parlez-nous un peu de ce nouveau restaurant. Qu'est-ce que c'est Mabrouk?
Alors Mabrouk, c'est un restaurant qui était à côté de chez moi, qui est très sympathique parce que il est face au Conservatoire des Arts et Métiers, face à l'église Saint-Martin, rue Saint-Martin.
D'accord.
Et c'est une adresse qui fonctionnait pas très bien et justement ce restaurant a permis au quartier de renaître un petit peu, de ce carrefour qui est plutôt...
Oui, un restaurant qui ouvre quelque part, surtout dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de tables, c'est...
Voilà.
C'est toujours un petit peu d'animation en plus pour le quartier. Alors, Mabrouk, le nom, hein, c'est de l'arabe, Mabrouk, parce que c'est un restaurant de cuisine juive tunisienne, hein, donc, dont on a déjà parlé plusieurs fois ici, hein, une cuisine que nos auditeurs aiment bien. Alors, bon, évidemment, j'imagine qu'il y a les grands standards de la cuisine juive tunisienne à la carte du restaurant.
Oui, c'est bien cela. On y retrouve évidemment les couscous. Moi, je voudrais souligner que j'ai jamais mangé une harissa aussi savoureuse que chez eux, qui est une harissa à maison. Et donc, on trouve dans une ambiance décontractée des plats traditionnels.
Ouais, la déco est sympa. Hein, on se croirait un peu transporté à la Goulette ou à Tunis.
Absolument, c'est épuré. Il y a une décoration orientale un petit peu simple, un service décontracté qui est tout à fait agréable.
Ok. Alors, d'ailleurs, vous parliez d'Arissa Maison qui, effectivement, était très bonne, je confirme. Donc, petite information qu'on vous avait donnée, mais enfin, tout le monde ne nous a pas peut-être écouté à ce moment-là, c'est que l'Arissa, maintenant tunisienne, a une AOP, l'équivalent d'une AOP qui a été lancée en Tunisie. Il y a 6 Arissa seulement, hein, qui aujourd'hui ont le droit de s'appeler Arissa tunisienne originale. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'était la petite anecdote. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé chez Mabrouk, Cyril? Parce qu'évidemment, hein, vous avez remarqué que quand vous êtes au restaurant avec moi, je viens piocher dans votre assiette.
Absolument.
Mais vous avez le droit de piocher dans la mienne aussi. Hein. Ça,
évidemment,
c'est le jeu.
Goûter. J'ai absolument adoré la méchouia, qui est une petite salade de tomates, de poivrons, de piment, d'ail, d'œuf.
Avec un œuf poché, là. C'est la méchouia
avec un pain savoureux. Ouais. Avec un œuf poché, oui.
Ouais, alors là, elle est revisitée parce qu'effectivement, normalement, l'œuf est cuit dedans. Alors que là, c'est un œuf poché, donc c'est un petit peu modernisé, européanisé. Est-ce que ça reste quand même authentique, le fait que ce soit un petit peu modernisé comme ça, avec l'œuf poché?
Oh, oui, tout à fait, parce que ce sont des
produits. Les goûts étaient là, les saveurs.
On utilise dans les cuisines orientales fréquemment.
D'accord. Alors, autre entrée que nous avons pu goûter, les merguez grillées, puisque quand on est dans un établissement, hein, qui fait de la cuisine d'Afrique du Nord, hein, la merguez, c'est quand même une référence. Hein. C'est pas Yanis qui me contredira, hein, je le vois opiner de loin. Yanis qui réalise l'émission. Les merguez grillées qui étaient parfaites.
Tout à fait bien cuites, un petit peu grillées, avec un petit croquant qui est tout à fait sympathique. Ouais, absolument.
Bon, alors avant de poursuivre un petit peu sur la cuisine du restaurant Mabrouk, hein, donc rue Saint-Martin, hein, c'est ça, hein, donc dans le 3e arrondissement.
Hein, absolument.
Ce qu'on appelle un quartier qu'on appelle le Haut Marais, ça c'est une invention C'est une invention des agents immobiliers, parce que comme on a Colmarais, forcément le tarif du mètre carré augmente un peu. Hein, ça c'est toujours amusant. Alors donc on va parler un peu de vos divers métiers. Alors assistant réalisateur à la télévision, concepteur, donc créateur de concepts d'émissions de télé. Donc ça on se dit que ça peut aller avec. Et puis bouquiniste. Alors déjà, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le métier de bouquiniste, qu'est-ce qu'un bouquiniste ?
Alors, les bouquinistes, en fait, c'est un métier qui est né à Paris il y a environ 4 siècles. C'était les premiers vendeurs de revues sur les ponts de Paris.
Oui, les bouquinistes sont toujours sur les quais de Seine.
Sur les quais de Seine, absolument. Sur la rive droite et sur la rive gauche. Alors, nous sommes environ 250 rive droite et rive gauche confondues. Et par un arrêté royal au XVIIIe siècle, les bouquinistes ont eu le droit d'installer des boîtes parce qu'avant ils avaient juste des paniers. Avec
oui. D'ailleurs, dans le métier, dans le métier, quand vous allez ouvrir votre voilà, on dit je vais aux boîtes ou je vais ouvrir mes boîtes.
Voilà, je vais ouvrir mes boîtes de bouquinistes, etc. Donc ils ont eu le droit de poser des boîtes pour y laisser leurs périodiques et les livres qu'ils pouvaient trouver.
C'est le premier kiosque à journaux, en fait, quelque part.
Un petit peu, on peut dire ça, je pense. Et c'était surtout les premiers dans le monde. Et ensuite, c'est un concept qui a essaimé dans grandes capitales.
Ah, ça s'est exporté, d'accord.
Un petit peu.
Quel type de capitale vous en avez vu où, vous ?
Eh bien, écoutez, il y en a en Australie, il y en a à Londres, il y en a à Lyon, un petit peu. Donc, c'est l'ancienne capitale des Gaules. Mais les plus importants sont à Paris, en fait. Il y a environ 300 000 livres à ciel ouvert. On peut dire que c'est la plus grande librairie au monde à ciel ouvert, et c'est un endroit de promenade qui est tout à fait agréable, où on peut effectivement trouver des livres d'éditions épuisées, des livres récents.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement, et qu'est-ce qu'on trouve chez les bouquinistes? Parce qu'aujourd'hui, il y a les kiosques à journaux, il y a les librairies. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver chez les bouquinistes? Alors, je précise aux auditeurs, on parlait des boîtes. Hein, ce sont, pour ceux qui ne visualisent pas bien ce que c'est, ce sont ces boîtes vertes, en fait, qui sont accrochées au bord des quais. Hein, c'est
qui
ça
sont posées sur le parapet.
Voilà, vous êtes au-dessus de Paris Plage, on va dire.
Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que ce sont des promenades très agréables à faire, parce qu'on peut contempler la Seine et tous les monuments qui s'y trouvent, tout en regardant des livres qu'on n'aurait pas trouvé ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages épuisés. Il y a également des ouvrages récents qu'on peut trouver à des prix beaucoup plus modestes qu'en librairie, parce qu'ils ont été lus et puis ils restent dans un état tout à fait correct à la lecture. Et on trouve des choses qu'on ne cherche pas, c'est-à-dire qu'on peut être attiré par un auteur, par le titre d'un livre, et ça peut déclencher une envie, et c'est un endroit qui, je le rappelle, est très agréable.
Oui, parce qu'on peut flâner, on peut se balader. Peut quel est le profil du client ? C'est le touriste, quel est le profil du client ?
Alors, il y a des touristes, il y a de jeunes lecteurs, de plus en plus.
Ouais.
Malgré le fait qu'on pense que la lecture est de moins en moins usitée, il y a également encore quelques bibliophiles qui cherchent vraiment une édition rare dans une très belle reliure, mais pas seulement. On trouve des livres modernes, et puis on peut trouver également des revues, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé si on s'adresse à un site internet, pour ne pas en citer certains qui sont...
On peut le citer, allez-y, Amazon. Amazon, il y a deux sites aussi.
C'est-à-dire que là, on peut découvrir des choses, on peut avoir le conseil du bouquiniste, parce que les bouquinistes sont des gens qui sont très cultivés, qui ont des connaissances très importantes.
Vous dites ça pour vous ? Vous
auto-convaincu ? Moi, j'apprends beaucoup.
Je vous taquine.
On trouve des gens qui sont férus d'histoire, qui peuvent vous indiquer des ouvrages ou des auteurs auxquels on n'aurait pas pensé si on avait été seul derrière son ordinateur.
Ouais, alors, justement, vous parliez d'auteurs qui sont pas mal recherchés. Quel genre d'auteurs sont souvent recherchés ?
Alors, il y a évidemment les célèbres. Il y a Albert Camus, il y a Kamel Daoud, de plus en plus, là, qui est un auteur tout à fait fabuleux, qui a une écriture légère et profonde en même temps. Il y a évidemment Victor Hugo, parce que il est l'emblème de l'auteur de Paris. On retrouve des Jules Verne pour les romans d'aventure. Louis-Ferdinand Céline, qui est un
auteur qu'on retrouve plus beaucoup dans les librairies parce que assez controversé.
Un petit peu controversé, mais
pour ses positions pendant la Deuxième Guerre mondiale. qui effectivement qu'on vous demande
Alphonse
pas mal.
Boudard pour son argot légendaire.
Oui, absolument. Oui. Alors, donc on va continuer à parler du restaurant Mabrouk.
Table de Manu, les bons plans des auditeurs.
Oui, les bons plans des auditeurs. Alors, si vous aussi, vous avez une bonne adresse à nous recommander, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Mais si vous avez aussi des questions à poser à notre invité sur son métier, enfin là, plutôt aujourd'hui, ses métiers, hein, assistant réalisateur, créateur de concepts d'émissions de télé, et puis bouquiniste, là, c'est le métier qu'il vient de vous expliquer, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Et puis, on essaiera de vous répondre, et puis où on notera votre adresse de restaurant préféré pour aller la tester. Alors revenons à Mabrouk, restaurant de cuisine juive tunisienne. Donc on a parlé un petit peu des entrées hein, qui étaient sympathiques. Qu'est-ce que vous aviez mangé après Cyril?
Alors moi j'ai dégusté un merveilleux couscous de poisson.
Ah
voilà, ce qui est vraiment typique de la cuisine tunisienne. C'est-à-dire l'association de la graine de couscous et du poisson. Le poisson était très bien cuit. Ce que je regrette, parce que je suis un peu gourmand, c'est que le couscous est servi à l'assiette.
Ah oui, tout est mélangé dans l'assiette.
L'assiette. Évidemment, si on a un peu plus faim, on peut toujours demander un petit supplément de semoule ou de légumes. Mais le fait est que c'était délicieux et assez simple.
Et assez simple. Alors, moi, j'ai goûté à votre plat. Alors, moi, ce que j'ai déploré, c'est que, effectivement, le fait que tout soit servi ensemble, c'est pas vous qui dosez le bouillon.
C'est ça.
Donc, si jamais vous allez tester Mabrouk, n'hésitez pas à dire beaucoup de bouillon, pas beaucoup. C'est selon si vous aimez la semoule un peu noyée ou au contraire plutôt sèche. Moi, je l'aime effectivement avec du bouillon, mais pas trop. Et donc c'est vrai que si je retourne chez Mabrouk, ce qui sera sûrement le cas, puisque j'ai aussi pas mal aimé, là je penserai à demander le couscous de poisson avec un petit peu moins de bouillon ou avec un peu de bouillon à côté pour pouvoir le doser moi-même, sachant que le couscous poisson, c'est vrai que c'est très emblématique de la Tunisie. Hein. On se souvient aussi du film La Graine et le Mulet. Je ne sais pas si vous l'aviez vu avec Afsia Herzi. Très très bon film, très très bon film autour du couscous au mulet, qui est un couscous emblématique en Tunisie, un petit peu en Algérie aussi, et qui est un couscous délicieux. Alors moi, de mon côté, de mémoire, j'avais pris la pkaïla. Qui est un paleron de bœuf mijoté avec des épinards, des haricots blancs, du carvi, du piment et de la menthe. Alors, votre couscous était à quel prix? Je ne le retrouve pas sur le menu qui est sous mes yeux.
Alors,
comment je fais ça?
Mon couscous était à 12,50€.
12,50€ aux légumes, voilà, plus 6€ pour le poisson, donc 18,50€. Et la pkaïla, alors c'est un paleron de bœuf mijoté, comme je le disais, avec épinards, haricots blancs, carvi, piment et menthe, qui était très bon aussi. Alors, vous l'avez goûté, qu'est-ce que vous avez pensé de cette pkaïla? J'espère que je le prononce bien.
Bah c'est bon, c'est la première fois que je goûtais ce type de plat. C'est vrai que le paillon était tout à fait tendre, la cuisson plutôt intéressante, et puis les piments sont de très bonne qualité.
D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez mangé un petit dessert? Il me semble que oui, hein, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que vous avez mangé, Cyril?
Oh, c'était très gourmand, c'était un beignet traditionnel.
Ouais, le bambalouni.
Au sucre. Ah oui, je me souvenais pas du nom.
Bambalouni.
Oui, alors là, c'était peut-être un peu trop après le couscous.
Ouais, bon, surtout que je vous ai fait pas mal manger, vous, pendant la semaine. Hein.
Exactement.
On a fait trois restaurants quand même.
Oui, et puis juste avant l'été, c'est vrai que c'est pas.
Pour rentrer dans le maillot de bain.
C'est pas toujours facile de s'en sortir. Hein,
oui. Alors, le bambalouni, et puis moi, j'ai pris un dessert que j'aime beaucoup, c'est le sabayon glacé. Hein. Alors ça, c'est bon. Je cuisine pas mal, mais il y a un truc que je ne sais pas réussir, que je ne réussis jamais, c'est le sabayon. Moi, je rate toujours mes sabayons.
Pour quelle raison ?
Bah, je ne sais pas. Si je savais, je les réussirais justement. Et du coup, quand j'en trouve au restaurant, comme j'aime beaucoup ça, eh bien, j'en prends. C'est un sabayon glacé qui était un petit peu revisité avec citron vert, menthe fraîche, hein, qui pour la saison là est très rafraîchissant et très très agréable. Donc ça s'appelle Mabrouk. Mabrouk, c'est 64. D'ailleurs, j'ai dit que c'était rue Saint-Martin. Oui, c'est à l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue Réaumur. Mais l'adresse officielle, c'est 64 rue Réaumur dans le 3e. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert 7 sur 7. Et puis, c'est ouvert non-stop, hein, 10h30, 23h30, du lundi au samedi. Et puis le dimanche, 10h30, 18h, il y a un brunch. Donc, voilà, un brunch tunisien, quoi. Un brunch à la tunisienne.
Absolument. Donc, mais alors, il y avait déjà pas mal de monde. Il y avait une clientèle féminine importante.
Oui, ça a ouvert il y a peu de temps.
Et c'est vrai que la décoration est très conviviale, en fait. Donc, assez aéré parce qu'on est face au conservatoire et à l'église Saint-Martin-des-Champs. Donc l'endroit, il y a une petite terrasse à laquelle nous n'étions pas, mais qui paraît complètement ensoleillée. Et puis moi, j'aime beaucoup le nom, Mabrouk.
Ouais, Mabrouk.
Voilà. Et donc j'en profite aussi pour saluer l'équipe de football algérienne qui a remporté la
CAN. Ah mais oui, on a regardé le foot hier. Hein.
Ah ouais, c'était merveilleux.
Alors vous étiez dans un petit café Kabyle du Marais, vous m'avez dit, hein, c'est ça?
Absolument. Au cave du du Petit Oir.
Ah, au cave, voilà, du Petit Oir, d'accord.
Du Petit Oir.
Donc dans le Marais.
Voilà. J'ai mangé un petit couscous également, tout à fait simple et sympathique, avec un patron qui est charmant.
Bon, une quatrième adresse alors dans l'émission.
Et oui,
voilà. Ah, on ne prive pas nos auditeurs des meilleures adresses. Oui, et puis moi j'étais au Paname Café, là où joue Tariq, animateur Beurre FM et stand-upper, hein, finaliste de l'émission La France a un incroyable talent. Et donc j'étais avec Adil Farkan, que vous retrouvez tous les matins sur l'antenne de Beurre FM, et puis Salia Adjilani, avec qui nous faisons le monde de Salia, qui nous fait voyager tous les jours, tous les matins, hein, tout autour du monde. Salia qui fait les guides Le Petit Futé, hein, voilà, une soixantaine de guides déjà à son actif, donc elle connaît bien le monde. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après la pause pour parler d'un autre restaurant et puis d'un autre de vos métiers, puisque vous en avez tant, Cyril.
Merci.
Jusqu'à 13h, les tables de Manu sur Beurre FM. Midi 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Allez, de retour dans les tables de Manu avec mon invité du jour que j'ai emmené manger au restaurant toute la semaine. Hein, qui a pris deux trois crans de ceinture en plus
au moins,
hein, et qui nous parle aussi de son métier, enfin de ses métiers, hein, puisque c'est un grand polyvalent, assistant réalisateur sur des émissions de télévision, créateur de concepts d'émissions de télé également, et puis bouquiniste. Vous nous en parliez juste avant la pause quand on parlait du restaurant Mabrouk. Alors bouquiniste, où est-ce que vous trouvez vos stocks de vieux livres? Les gens viennent vous en vendre? Il y a des gens qui viennent acheter, mais des gens qui viennent vendre aussi?
Alors absolument, il y a beaucoup de vendeurs. Il y a des courtiers qui passent vous vendre des livres tous les jours, qui vous proposent des livres qu'ils ont trouvés, qu'ils ont achetés par des réseaux qui sont les leurs. Il y a également des particuliers qui viennent vous vendre la bibliothèque de la grand-mère, qui part en maison de retraite, ça, ouais, ou un déménagement, parce que les appartements sont petits à Paris. Donc c'est vrai que les livres, c'est toujours très encombrant. Donc il y a beaucoup de gens qui vous proposent de venir chercher des livres dans leur bibliothèque ou chez eux.
Ok, alors les bouquinistes, hein, on le rappelle, ce sont ces boîtes vertes, hein, qui sont accrochées au bord des quais, et notamment autour de l'île Saint-Louis. Et ben ça tombe plutôt bien parce que l'île Saint-Louis, on y est allé y manger aussi, hein, on est allé dîner au Sergent Recruteur, Cyril.
Alors ça, c'était mon coup de cœur de la semaine avec vous, Manu, parce que c'est un endroit qui est merveilleux.
Ah, alors dites-nous ça.
Alors bah, écoutez, il y a une décoration. On rentre dans un lieu, il y a une façade assez imposante, il y a une grande armure sur le la façade.
Oui, donc ça s'appelle le sergent recruteur.
Exposé, le sergent recruteur. C'est un petit peu impressionnant au départ. Et on rentre dans un endroit qui est tout à fait agréable, une décoration très raffinée, assez épurée, pas du tout impressionnante en fait, quand on est à l'intérieur.
C'est très chaleureux. Le moderne et l'ancien.
Voilà, c'est très chaleureux. Et on est accueilli. Moi, j'ai trouvé que le service était vraiment parfait. C'est assez rare pour être souligné, parce qu'on va souvent dans des endroits qui peuvent être très bons pour leur cuisine, etc. Mais c'est vrai que parfois le personnel peut laisser un peu à désirer. Et là, il y a un service qui est tout à fait parfait, un accueil tout à fait agréable.
Oui, un service exclusivement féminin d'ailleurs. Donc Inès et Éléonore, très bien,
Éléonore, voilà.
qui ont été tout à fait accueillantes et adorables. Alors moi, je vais parler un petit peu plus de la cuisine, parce que le sergent recruteur, c'est un restaurant qui existe depuis très très longtemps sur l'île Saint-Louis, qui a été un bistrot traditionnel, pendant très longtemps, puis qui avait été repris au moment de la Jeune Rue, ce projet de la Jeune Rue, c'est un restaurant qui avait été repris, puis étoilé, avec Antonin Bonnet, qui avait décroché une étoile, et puis aujourd'hui racheté par un chef lui aussi étoilé, puisqu'il s'agit d'Alain Pégouret, dont on vous a déjà parlé, alors quand on a fait une émission hommage à Joël Robuchon, parce que c'était un des principaux lieutenants, un des grands seconds de Joël Robuchon, devenu lui-même un très grand chef, Alain Pégouret, et il était étoilé au restaurant Laurent, dont on vous a déjà parlé l'été dernier. Et après 14 ans ou 17 ans, je crois, à la tête des cuisines du Laurent, Alain Pégouret saute le pas, il fait le grand saut, et il a donc son premier restaurant à lui, j'ai envie de dire, le Sergent Recruteur. Alors parlez-nous un peu de la cuisine d'Alain Pégouret. Qu'est-ce que vous avez mangé déjà en entrée, Cyril?
Oh, alors, attendez. Moi, j'ai mangé un foie gras. Comment dire? Je trouve pas les mots.
Poché. C'est ça, un foie gras. Voilà, je vais vous donner l'intitulé.
Sur un lit de légumes et de fruits qui était. Mais c'est. Alors, déjà, le plat est très beau. Quand on voit arriver l'assiette, on a envie de...
Oui, c'est de la haute cuisine.
Ah oui, alors c'est vraiment...
On va vous parler des prix après, ça ne va pas devenir votre cantine de tous les jours.
Et voilà, bon. Donc c'est pas hors de prix, mais c'est quand même un prix...
Non, alors le rapport qualité-prix est absolument exceptionnel, parce qu'on mange vraiment très 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 bien. Alain Pégouret était étoilé au Laurent, on imagine qu'il pourrait récupérer une étoile aussi au sergent recruteur, et c'est vrai que pour un restaurant d'un niveau, à mon avis, étoilé, le rapport qualité-prix est très bon. Alors l'intitulé de votre plat, c'était le foie gras de canard poché dans une sangria aux légumes et fruits blancs et pamplemousse à la flamme, et rhubarbe.
Ah ouais, non, alors j'ai commencé à manger un des légumes ou un des fruits comme ça, qui ça fond dans la bouche, c'est beau en couleur, l'assiette est belle, la composition de l'assiette vous laisse complètement sur le flanc presque, et c'est vrai que c'était une grande découverte.
Ouais,
Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça pouvait être un foie gras un peu traditionnel, etc. Or pas du tout. C'est un foie gras qui doit être un peu mi-cuit. Vous m'en direz peut-être plus sur cette.
Oui, pour je confirme que c'est une cuisine qui se mange avec les yeux d'abord, parce que c'est très joli. Et puis c'est un restaurant où il y a une cuisine ouverte.
Oui.
Et donc on était à une table juste devant la cuisine ouverte. Et effectivement, donc on voyait les chefs, l'équipe de cuisine s'activer. Alors c'est assez incroyable, parce qu'en général, c'est vrai, quand on voit une cuisine en action, on a pu le voir dans les reportages ou dans des films, ça crie de partout, oui chef, machin, on entend le bruit des casseroles. Alors que là, on entendait les mouches voler.
Rien à voir, c'est ça. C'était ce qui est incroyable, c'est que on les voyait s'activer avec dans un balai. Ils étaient trois dans cette cuisine à se débattre, mais avec une douceur et une légèreté complètement silencieuse.
Ouais, absolument.
Et c'est ce qui m'a surpris, parce que quand on regarde les émissions de cuisine, on les voit effectivement s'activer, on entend des bruits de casseroles, des choses comme ça, des gling-glang, des cris ou des activez-vous, etc. Et alors là, il y a un silence radio complètement fou.
Ouais, là, l'exploit, c'est de réussir à assurer un service de cuisine gastronomique dans un silence parfait, et d'arriver à communiquer, d'être coordonné, sans se hurler des instructions d'un bout à l'autre de la cuisine. Alors moi, j'avais pris un plat que vous avez goûté aussi et que vous aviez apparemment aimé. C'était des girolles juste saisies avec une lasagne aux herbes et un jaune d'œuf à peine coulant, et puis un petit crumble d'oignon et de parmesan, tant qu'à faire. Ah oui. Donc, magnifique entrée aussi, hein, ça c'était très bon, avec des girolles parfaitement cuites, légèrement croquantes sous la dent. Hein. Souvent, les girolles, quand c'est mal cuit, ça devient un peu spongieux, un peu mou. Là, c'était magnifique. Et puis, à mon avis, une girolle de très bonne origine, hein, aux antipodes des girolles d'Europe de l'Est, légèrement radioactives, merci de Tchernobyl, qu'on trouve sur les marchés. Ouais.
Vous m'avez fait plaisir, parce que j'hésitais vraiment avec mon foie gras, et vous m'avez fait plaisir.
Oui, c'était foie gras ou girolles, j'ai dit bon, on va prendre les deux.
Voilà, vous m'avez fait goûter votre plat, et ça, j'ai beaucoup apprécié aussi ce plat de girolles, voilà, qui est un champignon très fin.
Ouais, alors vous disiez tout à l'heure, oui, je suis pas un spécialiste de cuisine, mais quand même, puisqu'on parle aussi un petit peu de votre métier, enfin de vos métiers, assistant réalisateur sur des émissions de télévision, vous travaillez pas mal avec le Maroc. Et notamment sur des adaptations d'émissions de cuisine qu'on voit à la télévision française.
Voilà, j'ai travaillé récemment sur une émission qui passait pendant après le Ftour, pendant le Ramadan. Alors de mémoire, c'est Rajlifil Cuisina, mon mari est en cuisine. Et c'est vrai que c'est un nouveau concept pour le Maroc.
Ouais, c'est l'adaptation de l'émission Chéri, c'est moi le chef.
Exactement, qui existait en France, qui s'est arrêtée. Et c'est vrai que pour le Maroc, c'est une révolution, parce qu'on a peu l'habitude de voir les hommes en cuisine. Donc là, ils étaient dirigés par leurs femmes, un peu plus rassurés, etc. Mais c'était assez drôle quand même de les voir dans un environnement qu'ils connaissent moins que souvent leurs femmes, leurs sœurs, leurs cousines.
Ouais. Alors quand on adapte une émission de la télévision française sur 2M, qui est l'une des plus, peut-être même la plus grande chaîne marocaine, je crois, hein, c'est le TF1 marocain un peu. Hein,
un petit peu, c'est une chaîne importante.
Est-ce qu'on fait vraiment un copier-coller de l'émission, ou est-ce qu'on adapte l'émission à des critères culturels, géographiques, techniques, de format aussi? Peut-être que l'émission ne dure pas le même temps. Comment on adapte une émission comme ça?
Écoutez, effectivement, c'est surtout en fonction de la demande de la chaîne, de la durée de programme qu'elle souhaite obtenir. Là, en l'occurrence, c'était des émissions qui étaient assez courtes, qui faisaient 13-14 minutes, parce que lors du Ramadan, vous savez que après le Ftour, il y a toujours une série, il y a des actualités, donc on avait un format qui devait être réduit, donc on a adapté. En ne diffusant aucun candidat, en faisant un concours sur 3 jours pour chacune des émissions, où il y avait 3 couples donc qui venaient cuisiner, et on diffusait chaque soir.
Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas la version française, hein, c'est que là, c'est les hommes qui passent en cuisine. Alors évidemment, on caste, hein, comme on dit, on sélectionne des gens qui, a priori, sont vraiment des quiches en cuisine, hein, comme on dit, qui sont vraiment pas du tout
habitués. Pas forcément, mais qui ont envie d'essayer de démontrer des choses, ou c'est un challenge parfois pour les hommes de se dire, bon, je vais écouter ma femme pour une fois.
Et oui, c'est ça. Et ils ont donc une oreillette, et c'est madame qui donne les ordres.
Et c'est madame. Qui donne
allez, vas-y, chérie, coupe ça comme ça, surveille la cuisson de ton truc.
Exactement.
Etc.
Et puis, parfois, ils ont du mal, effectivement, à faire plusieurs choses en même temps, à surveiller le four, à surveiller la cuisson.
Au four et au moulin, comme on dit.
Exactement.
Ouais. Alors, il y a des scènes de ménage, parfois, pendant l'émission. Il y a des moments où ça dérape un peu.
Alors, ça s'énerve. Parce que dans l'action, dans un temps imparti qui est souvent très court, il faut faire beaucoup de choses en même temps. Effectivement, avoir les ordres de quelqu'un qui vous dirige et qui n'est pas à votre place, ça peut parfois donner lieu à des petites tensions.
Mais
heureusement, alors dans l'émission, on avait placé un buzzer qui permettait à l'homme, quand il en avait
ras-le-bol,
on peut le dire, de mettre en veille son épouse.
Ah oui, d'accord, on peut lui couper la chic comme
et
ça.
Et on lui coupait la chic pendant une minute.
Et c'est là que madame s'énerve encore plus.
Exactement.
Ah, donc, le salaud, voilà, il m'a coupé.
Voilà. Bon. Mais ça reste bon enfant, et dans un esprit plutôt de couple et de bonne humeur.
Et comme vous le racontez, ça a l'air d'être un métier sympa, où on s'amuse presque, hein, en travaillant, alors que c'est quand même beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail en préparation.
Est-ce que vous enregistrez plus? Nous, on le voit diffuser une fois que c'est monté, terminé. Ce sont des émissions qui durent 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes, etc. selon le type d'émission. Mais vous en enregistrez plusieurs par jour. Et puis j'imagine que le travail préparatoire, il est énorme sur une émission.
Énorme, bien sûr. Puis là, on avait un travail de traduction des recettes, on avait un travail de rédaction, de
logistique aussi. Comment est-ce qu'on installe des cuisines dans un studio de télé?
Ah bah ça, on, ça c'est le secret de la télévision. Il y a la gestion des produits, hein, la conservation, l'hygiène, évidemment. Tout est pensé en amont et effectivement pour nous permettre de pas faire d'erreurs, de pas avoir de problèmes avec ou d'accidents quand on se coupe avec un couteau ou ce genre de choses.
Voilà, bon, il y avait une émission qui s'appelait Vie ma vie aussi. Alors aujourd'hui, c'est Vie ma vie d'assistant de réalisation à la télévision. Si c'est un métier qui vous intrigue, vous pouvez nous appeler 01 53 48 3000. Cyril vous répondra avec plaisir. 01 53 48 3000. Et puis si vous voulez nous donner aussi une bonne adresse, parce que vous aussi, vous avez des bonnes adresses, sans doute pas forcément à Paris, hein, vous qui nous écoutez, à Toulouse, à Bastia, à Creil, à Villeurbanne, Valenciennes, vous nous appelez 01 53 48 3000 pour nous donner des bonnes adresses en région également. Et puis on revient donc à ce superbe dîner au Sergent Recruteur, la nouvelle table d'Alain Pégouret, l'ancien chef du restaurant Laurent. Alors, donc vous êtes parti poisson ou viande, vous, ensuite?
Alors, ensuite, moi, je suis parti viande. Et alors, j'ai découvert une poulette.
Une petite poulette.
Je ne connaissais pas ce terme. Hein. Moi, c'était plutôt le poulet ou le coq. Mais la poulette, je ne connaissais pas.
Alors, la poulette culoiselle.
Culoiselle, ah. Voilà.
Donc ça, c'est un gage de qualité. Hein. Les volailles culoiselles sont excellentes. Et effectivement, là, c'était... puisque, comme je le dis, hein, moi, je mange dans l'assiette de mes invités aussi. Hein, et c'est vrai que c'était très tendre. Alors, parlez-nous un petit peu de ça. Alors, je vais donner l'intitulé exact. Une poulette culoiselle rôtie à l'ail noir sous la peau, avec celtus et cosse de fougère grillée et fleurettes d'herbe forte. Alors, c'est vrai que c'était très herbacé comme recette. C'était très chlorophyllé. Hein.
C'était très chlorophyllé. Il y avait une petite peau un peu grillée.
Oui. C'était croustifondant, comme disent les enfants.
Croustifondant. Et puis la qualité de la viande et de ce mélange, effectivement, de cuisson presque un petit peu... enfin, très grillée. Et avec le fondant de la viande qui était tout à fait exceptionnel, c'était vraiment intéressant.
Ah ouais, je vous confirme, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce plat aussi. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai commandé une noix de riz de veau rissolée au basilic, tétragone et girolle en salade. Et poivrade juste saisie. Donc poivrade, on parle de l'artichaut là.
Ah, mais j'ai goûté aussi.
Ben oui, parce que vous m'avez dit, moi, le riz de veau, je suis pas fan, j'en mange pas, etc. Alors, est-ce que je vous ai converti au riz de veau, Cyril Graffin?
Ah bah uniquement à cette adresse, hein, avec vous, alors sur vos conseils, parce que c'est vrai que c'est très bon. C'est très bon, je dois avouer que c'est très bon.
C'était un mauvais a priori.
Absolument.
Alors c'est vrai que le riz de veau, c'est une des choses qui est les plus dures à cuisiner, parce que soit on le cuit pas assez, et c'est vrai que là, c'est pas très très bon, hein, parce que c'est un peu mollasse à l'intérieur, c'est pas une consistance très, très agréable, et puis quand c'est pas cuit, les saveurs sont un petit peu particulières, on va dire, et puis quand c'est trop cuit, bah c'est un vrai chewing-gum, hein, donc c'est vrai que là, il était effectivement parfaitement cuit, hein. Il était bien moelleux à l'intérieur, un petit peu croûté comme on dit en cuisine, hein. C'est-à-dire que l'extérieur de la noix de riz de veau était bien rissolée, donc un petit peu croustillante, bien caramélisée, c'était délicieux. Et puis les petits artichauts poivrades juste saisis en accompagnement qui restait un peu croquant, c'était effectivement délicieux.
Alors c'est une glande, hein, vous m'aviez dit que c'était une...
Oui, c'est le thymus, hein, c'est une glande qui est pas loin du cou, autour du cou des veaux. Voilà. Alors rapidement, parce qu'on arrive à la fin de ce plateau, rapidement sur les desserts. Alors les desserts, là, c'est moi qui suis pas un sucré. C'est vrai que là, quand même. Alors vous êtes fan de chocolat, donc forcément
chocolat.
Ouais, chocolat à l'infusion de gingembre, sorbet cacao et citron vert sous un voile d'or. Vous aviez un dessert plaqué or.
J'avais un dessert plaqué or. Je mange de l'or. Oui, c'était C'est un dessert qui est très raffiné, qui est très beau quand il arrive dans l'assiette, effectivement, et vous avez l'impression qu'il y a plusieurs couches de chocolat, substance,
oui, oui.
Pardon.
Il y a plusieurs consistances, oui.
Consistance, ah, ouais. Merci.
Il y a du craquant, il y a du fondant, il y a... Ouais.
Voilà, et alors c'est merveilleux, là, je...
C'était délicieux.
L'apothéose du dîner, c'est vrai que...
Après, ouais, alors c'est... que moi, plus classique, hein, les pêches et les amandes en pétales croustillantes au shiso. Et bon, je suis pas trop dessert et pas trop fruits, mais alors là, bon, franchement, moi, je valide complètement le dessert d'Alain Pégouret au sergent recruteur. Donc, c'est dans l'île Saint-Louis, au numéro 41 de la rue Saint-Louis en Lille, dans le 4e à Paris. On vous en dit un petit peu plus juste après la pause. Et puis après, on va parler d'un troisième restaurant. Je vous ai bien nourri cette semaine,
oui,
Cyril Graff.
C'est vrai.
Les tables de Manu reviennent dans un instant. Midi 13h, les tables de Manu, avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dans retour dans les tables de Manu, l'émission qui vous fait passer ou repasser à table, hein, sur tous ses invités, avec Cyril Graffin qui m'a accompagné tout au long de la semaine dans quelques bonnes tables. Hein, on vous a parlé de Mabrouk, restaurant de cuisine juive, tunisienne, enfin on va dire même tunisienne en général. Hein, et puis en deuxième partie, on parlait du sergent recruteur.
Sergent recruteur.
Alors, on va quand même y revenir un petit peu sur cette troisième partie d'émission, parce que bon, c'est vrai que on a oublié de vous parler d'une petite rillette de maquereau qui nous a été servie en amuse-bouche,
on va dire. Amuse-bouche. Ouais. Alors toi, oui. D'habitude, moi, j'ai l'habitude de la faire avec du thon. C'est vrai que avec le maquereau, qui est un poisson un peu plus
qui a un peu plus de caractère, un peu plus.
Oui.
De,
ouais.
C'est délicieux.
On a mangé du pain qui était excellent avec ça, et c'est vrai qu'on
peut. Alors oui, le problème des rillettes de maquereau, c'est que ça fait manger du pain au début du dîner.
C'est ça.
Mais bon, comme tout était absolument très fin, hein, on s'est pas démonté, on est allé jusqu'au bout quand même.
Hein. Oui. Ouais. J'aurais pu en reprendre encore même.
Hein. C'est vrai, oui. On en a repris d'ailleurs des rillettes de maquereau. Hein. On en a pas pris qu'une fois, et elles étaient
des petits croutons,
délicieuses. Hein. Ouais, en amuse-bouche. Alors, donc on vous a parlé beaucoup des plats que nous avons manger. On va vous parler un peu de prix, puisque comme je disais, bon, effectivement, c'est un restaurant haut de gamme. Hein, c'est bien d'en parler de temps en temps aussi. C'est vraiment un restaurant pour les soirs de fête, pour se faire plaisir.
Mais très simple aussi, hein, dans un service très professionnel et très simple quand même.
Oui, donc on rappelle une...
On se sent à l'aise. Voilà, c'est pas du tout impressionnant.
Non, absolument pas. Alors donc, au niveau des entrées, bon, les entrées, c'est entre 28 et 38 euros. Les plats sont entre 38 et 58 euros, notamment pour le homard entier rôti en coque avec des fleurs de courgettes farcies. Ça, on a failli partir là-dessus, mais bon, finalement, on est resté plutôt viande. Et puis les desserts entre 18 et 22 euros. Donc effectivement, c'est pas le restaurant de tous les jours, mais malgré tout, compte tenu du service, de la qualité des produits, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Et puis vous avez des menus dégustation. Alors il y a un menu qui permet de découvrir la carte en... Ça, c'est une très bonne affaire. Hein. Ça permet de découvrir la carte en 5 plats. C'est 85 euros par personne. Vous avez une mise en bouche, vous avez la dorade royale en ceviche, les girolles dont on a parlé, la poulette culoiselle que vous aviez choisie et dont on a parlé également, et mon dessert, les pêches et amandes en pétales croustillantes au shiso. Et ça permet de découvrir un petit peu l'étendue de la cuisine et du talent d'Alain Pégouret sans casser la tirelire. Et puis si vous voulez vraiment vous lâcher, là le menu horizon en 7 étapes, alors là, bon... venez dîner tôt, hein, pour avoir le temps de tout apprécier, qui est à 139 euros par personne. Donc voilà, un restaurant avec un budget un petit peu supérieur au restaurant qu'on vous donne en général, mais on tenait à vous en parler parce que c'est vraiment une très belle table, une table de fête, 41 rue Saint-Louis en Lille, le sergent recruteur d'Alain Pégouret. Et puis vous retrouverez de toute façon les adresses de tous les restaurants dont on vous a parlé sur la page du podcast.
Alors il y a aussi un bar où on peut déguster les petites assiettes,
oui.
ce que nous disaient Inès et Léonore.
Oui, absolument.
Avec des prix qui sont un petit peu plus...
Oui, alors il y a l'instant bar, effectivement. Vous pouvez donc à l'entrée du restaurant, il y a un petit bar très sympa d'ailleurs, et vous pouvez y manger des gambas croustillantes au basilic à 9 euros, un ceviche de cabillaud, sorbet coriandre et agrumes à 12 euros, des asperges blanches sauce mousseline à 11 euros, ça c'est très bon là, la sauce mousseline avec les asperges, voilà. Vous avez des supions pimentés et à peine snackés avec de la tétragone à 14 euros, un paleron de bœuf maturé saisi à la plancha à 21 euros, enfin voilà, donc on peut aussi aller le midi tester la cuisine d'Alain Pégouret à des tarifs très, très raisonnables et comme on le disait avec un décor et un accueil très sympa. Et puis une formule déjeuner, entrée plat ou plat dessert à 39 euros ou bien entrée plat dessert, la totale à 49 euros. Voilà une autre façon aussi de découvrir la cuisine d'Alain Pégouret, une cuisine de niveau étoilé, je le rappelle, c'est une bonne entrée en matière dans la gastronomie étoilée, on va dire.
Absolument, juste avant d'aller voir les bouquinistes ensuite pour faire une promenade sur la Seine.
Voilà,
digestive.
On peut aller vous voir après, oui, sur le quai de l'Hôtel de Ville, puisque vous êtes également bouquiniste.
C'est vrai.
Et alors, toujours dans ce quartier du Marais, parce qu'on a... On a vraiment gravité autour de vos boîtes,
ah oui,
comme vous les appelez. Hein.
C'est ça.
Les boîtes où les bouquinistes rangent leurs livres. Donc on est resté un petit peu dans le quartier. Et puis on est allé, hein, c'est l'été. Donc l'été, on aime bien être au bord de la mer. Donc on est parti à Dinard, mais sans quitter le Marais.
Dans la cabane du pêcheur.
Oui, c'est ça.
C'est
ouais.
Ça.
Une cabane du pêcheur dans une rue du Vieux Marais. Alors comment ça s'appelle?
Alors ça s'appelle Oyster Bar.
Donc le bar à huîtres quoi. Non, Oyster Club, pardon.
Oyster Club.
Donc oui. le club des huîtres, hein, littéralement, qui a jeté l'ancre en plein cœur du Marais. Hein, donc on a pris le large un peu ce soir-là. Hein.
Ah bah oui, c'est très simple, c'est très convivial. Il y a des grandes tables en bois devant la façade. Et à l'intérieur.
Oui, ça fait vraiment cabane de pêcheurs.
Ça fait cabane de pêcheurs.
On est au coude à coude avec les gens,
avec les voisins. C'est très convivial et effectivement là, il y a tous les produits de la mer qui m'a rassuré, qui sont servis et élaborés par de vrais Bretons. Effectivement,
vous disiez. Oui, Tanguy et Geoffrey. Alors bon, voilà. Geoffrey. C'est peut-être pas le plus prénom des Bretons, mais il est bien breton. Et puis Tanguy, bon, là, Tanguy,
il n'y a pas de doute,
hein, on l'a démasqué un peu. Hein. Alors, donc, ils ont déjà une adresse à Dinard.
Oui, c'est ce que nous expliquaient nos voisines de table.
Ouais.
C'est qu'elles allaient, elles, chez la tante à Dinard, qui est une institution, la tante de Tanguy, justement.
Oui, d'accord.
Qui a une petite institution à Dinard et qui sert effectivement les produits de la pêche de ses neveux, de ses voisins. Et ils ont voulu nous apporter cette petite fraîcheur au cœur du Marais. Pour notre plus grand plaisir. C'est vrai que c'était une adresse sympathique.
Ouais, alors c'est un dîner, alors c'est pas formel, hein, parce que la carte, en fait, il n'y a pas vraiment de carte, hein, puisqu'il y a une grande ardoise.
C'est ça.
Donc à l'intérieur, on vous conseille évidemment pendant l'été de manger en terrasse, parce que c'est sympa, c'est animé, puis on est proche des voisins, donc du coup, c'est vrai que ça facilite les échanges, hein, avec les voisins, discuter avec ses voisins de table, c'est assez sympa, c'est très convivial. Et puis la carte, donc, elle est sur. Alors à l'intérieur, il y a un grand banc de fruits de mer avec des huîtres, des fruits de mer et autres. Et puis il y a une grande ardoise avec les propositions du jour. Alors nous on a goûté un petit peu à tout, hein, j'ai envie de dire. Hein, on s'est fait toute l'ardoise.
Oui, c'est ça.
même pas peur. Alors donc il y avait des huîtres. Alors bien que ce soit pas la saison, hein, des huîtres c'est pas. Enfin, il y a des huîtres, il y en a toute l'année, mais bien que ce soit pas la meilleure saison pour les huîtres, c'est vrai qu'elles étaient pas mal. C'était des cancales numéro 4.
Oui. Alors moi j'avais un petit peu d'appréhension parce qu'on dit toujours il y a des saisons pour les huîtres, il faut pas les manger dans les mois qui ne sont pas en air, etc. Donc vous m'y emmenez en plein mois de juillet, j'avais un petit peu peur et en fait ces huîtres n'étaient pas du tout grasses, elles étaient tout à fait très fraîches.
Ouais, 9 euros les 6 et 17 euros les 12. Et puis il y a également des pratarkoum à 13 euros les 6 et 25 euros les 12. Alors des huîtres d'une fraîcheur impeccable. Alors c'est vrai que les poissons partent tous les matins de Dinard. Hein. Ils vont pas à Rungis, hein, Tanguy
et Geoffrey. Non, ça passe directement par la criée de Dinard.
Parce qu'ils ont effectivement, comme ils viennent de là-bas, ils ont leur carnet d'adresse, donc ça part tous les matins de là-bas, et le soir,
Ça arrive sur votre table.
On va dire que le poisson, au petit matin à l'aube, il nageait et le soir, il est dans votre assiette à Paris, quoi, en gros. Hein.
C'est ça.
C'est à peu près ça. Alors, donc toujours sur cette grande ardoise, bon, des crevettes roses bio qui étaient très bien cuites, qui étaient très bonnes. Hein. De toute façon, quand c'est bio, c'est toujours meilleur. Des crevettes grises aussi, très, très sympa. Donc, respectivement à 9,50 € et 7 € l'assiette. Et puis des bouleaux aux 12 épices.
Alors là, c'était les bouleaux, c'est ce qui m'a un petit peu freiné quand même, ouais. Parce que j'en ai parlé un petit peu avec un des notre serveur ouais. Tanguy, qui m'a dit finalement c'était pas la saison.
Ah non, ça c'était les bigorneaux.
Ah les bigorneaux, ouais.
Non. Là, je parlais des bouleaux. Je parlais des bulots. Donc les bulots aux 12 épices qui eux effectivement étaient plutôt bons.
Alors oui, c'est un petit peu
ferme. Alors moi je donne un conseil, non pas à Tanguy et Geoffrey, je me permettrai pas, mais je donne un conseil aux auditeurs, si vous cuisez les bulots vous-même, parce qu'on les bulots souvent on les achète déjà cuits, déjà assaisonnés, etc. Mmh. Mais si vous aimez les bulots, achetez les vivants. Donc là vous allez vraiment chez un vrai poissonnier, vous achetez des bulots vivants. Et le truc pour avoir des bulots qui sont vraiment moelleux et savoureux, c'est déjà de ne pas hésiter à charger en épices. Là, ça tombe bien, hein, les bulots, ils sont aux 12 épices, donc ça, là-dessus, ils ont tout bon. Mais parce que le bulot, il va prendre uniquement les épices dont il a besoin, donc n'hésitez pas à charger, hein, épices, aromates, etc. Et puis, de les laisser toujours refroidir dans le rôle de cuisson. L'erreur à ne pas faire, c'est quand les bulots sont cuits, on les égoutte et on les passe sous l'eau froide. Alors ça, là, si vous voulez faire du chewing-gum, c'est parfait. et donc, c'est vrai que bon, je les ai trouvés un tout petit peu fermes, les bulots, mais très, enfin, un peu fermes. Légèrement fermes, hein, j'ai déjà vu bien pire. Hein, et ils étaient effectivement très bons. Alors, les bigorneaux, c'est vrai que...
Les bigorneaux, voilà.
La plupart étaient vides, donc c'est pas vraiment la saison.
Non, voilà, ils se rétractent ou je sais pas, mais effectivement, Tanguy m'expliquait que c'était pas la saison. Effectivement, c'est peut-être pas le...
Alors moi, j'ai envie de dire, si c'est pas la saison, faut pas en faire, quoi.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà. Ouais,
donc parce que tout le reste était très bien, très frais. On a goûté les couteaux.
Couteaux, ouais, très très bien les couteaux.
Qui étaient très délicieux. Bien cuits, qui étaient un petit peu grillés, un petit peu croquants.
Ouais, un peu caramélisés.
Ouais.
Les amandes farcies aussi, des amandes de mer farcies, avec une petite persillade, ouais. À peine cuite. Donc là, vraiment, cuite juste ce qu'il faut. Donc ça, c'était très bon. Alors là aussi, on a mangé de la rillette, mais de thon cette fois-ci. Hein,
c'est ça.
Qui était pas mal aussi. Alors, les couteaux en persillade, 8 €, c'est très raisonnable. Pour des couteaux, les amandes farcies maison 7,50 € les 6, 14 € les 12, et puis les rillettes de thon blanc maison qui sont à 10 €. Alors sachant que si vous voulez un mix d'un petit peu tout ça, vous pouvez commander le mix de fruits de mer. Alors le mix de fruits de mer c'est 16 €, il y a des huîtres, des crustacés, tout ça, c'est effectivement sympathique. Alors pour les auditeurs qui boivent du vin, je voulais préciser une chose, c'est que bon, la carte elle a des vins bio et des vins nature. Alors moi, autant j'aime les vins bio, je ne supporte pas les vins nature. Et donc c'est vrai que la carte est jolie, il y a des belles références. Hein. D'ailleurs, on a goûté effectivement un très bon Savenière de chez Stéphane Branchereau, donc un vin blanc. Mais ce serait bien de préciser effectivement sur la carte quels sont les vins qui sont bio et quels sont les vins qui sont nature. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un interrogatoire pour savoir. En tous les cas, globalement. Très bonne adresse, hein, une adresse sans chichi, mais très agréable. Si on n'a pas de vacances prévues tout de suite, hein, on peut aller là-bas. C'est une très bonne entrée en matière. Donc, c'est l'Oyster Club Paris,
rue de Jouy,
15 rue de Jouy, oui, à Paris 4e. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir et le lundi. Et puis, on vous mettra également l'adresse sur la page. Du podcast de l'émission. Alors, on n'a plus énormément de temps, mais on va quand même parler en deux secondes de votre troisième métier, concepteur d'émissions de télé. C'est quoi ça, Cyril ?
Eh bien, alors, il y a plusieurs branches. C'est un métier qui consiste à inventer des concepts d'émissions, essayer de proposer, par exemple, des nouveaux jeux, des nouvelles façons d'interviewer les personnes, ou alors d'adapter un jeu qui existe dans un pays à l'étranger et de l'adapter justement
Ah oui, ça peut être la création ou l'adaptation,
d'un jeu, d'une culture à l'autre.
Oui, vous êtes spécialisé, vous, un peu dans les jeux, hein.
Je suis un peu spécialiste.
D'ailleurs, vous travaillez sur des émissions comme Les Amours, par exemple, ou autres.
Oui. Entre autres.
Entre autres, oui.
Absolument.
Chéri, c'est moi le chef, l'adaptation marocaine. Ça aussi, c'est un jeu télévisé, on peut dire.
Absolument. Puisque les
participants gagnent des choses.
Voilà, des émissions d'aventure également, comme Fort Boyard.
Ah oui, vous avez fait beaucoup de Fort Boyard.
Qui n'existaient plus, comme des adaptations de jeux d'aventure pour les enfants,
oui.
Comme Les Mondes Fantastiques, comme Mission Piratac, qui reprenaient un petit peu des principes de Fort Boyard, justement, mais pour des enfants, pour des ados. Ce qui manque un petit peu maintenant à la télévision, parce que c'est vrai qu'on s'adresse de moins en moins
aux enfants.
À des enfants.
Tout simplement.
Voilà.
Bon allez, on rappelle les adresses des restaurants du jour. Donc il y avait le sergent recruteur d'Alain Pégouret, table gastronomique, 41 rue Saint-Louis-en-Lille à Paris 4e. On vient également de vous parler de l'Oyster Club. Si vous voulez voyager à Dinard sans quitter Paris, 15 rue de Jouy.
Dans une petite rue avec peu de voitures.
Ouais, absolument, ouais, terrasse bien au calme à Paris 4e. Et puis, la cuisine tunisienne à l'honneur à Paris, au 64 rue Réaumur. Ça s'appelle Mabrouk.
Mabrouk en l'honneur également de cette équipe d'Algérie qui
oui,
a remporté
ça,
la carrière.
Absolument. One, two, three, comme dirait Yanis. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles adresses avec un nouvel invité. C'était les tables de Manu. Et puis, restez avec nous maintenant pour la suite des programmes sur Beurre FM.